VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 11 octobre 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, la Cour de cassation a exigé la présence physique de Moïse Katumbi au procès de l'opposant dans l'affaire de recrutement de mercenaires.
Toujours en RDC, pas de consensus encore entre la CENI et l'opposition sur la machine à voter après une nouvelle rencontre hier.
En Guinée, la grève des enseignants et leurs revendications au sein d'une prochaine tournée du Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana à travers le pays.
L'Algérie rejette les assertions, c'est une citation, de l'ONU sur les expulsions de migrants africains.
Affaire Jamal Khashoggi, les services de renseignement américains auraient eu connaissance de projets saoudiens d'arrestation du journaliste porté disparu, selon le Washington Post.
L'ouragan Michael, qui a dévasté le nord-ouest de la Floride ici aux États-Unis, a fait au moins un mort.
Réunion aujourd'hui à Erevan, en Arménie, de l'Organisation internationale de la francophonie, l'élection de la Rwandaise Louise Mushikiwabo assurée.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Procès de l'opposant congolais Moïse Katumbi dans l'affaire de recrutement de mercenaires. La Cour de cassation a exigé en ouverture de la deuxième audience mercredi à Kinshasa la présence physique de l'opposant qui vit en exil depuis 2 ans maintenant à l'étranger. Elle a récusé la qualité de la défense de l'ancien gouverneur du Katanga. En réaction, Moïse Katumbi accuse le pouvoir en place et parle de farce inconstitutionnelle. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, nos stations partenaire à Kinshasa.
D'après les juges de la Cour de cassation, les avocats présents en ouverture de cette deuxième séance n'avaient pas qualité de représenter les prévenus Moïse Katumbi et Daryl Lewis, car il s'agit des faits passibles de 5 à 20 ans de servitude pénale. Seul le co-accusé Kibinda Mutebayanik s'est physiquement présenté devant les juges. En exil depuis 2016, Moïse Katumbi, qui n'a pas pu regagner le pays en août dernier pour déposer sa candidature à la présidentielle, a sur les réseaux sociaux remercié ses nombreux sympathisants venu à la Cour suprême pour lui témoigner leur soutien et déclarer, je cite, « Cette farce inconstitutionnelle continue. Les juges réclament ma présence, le régime ne me laisse pas rentrer. Quand Kabila se mêle de la justice, c'est l'image de la RDC qui est ternie », fin de citation. L'Américain Daryl Lewis, également absent, a lui accusé Kinshasa d'avoir refusé de lui octroyer le visa pour pouvoir comparaître devant la justice congolaise. Pour rappel, Moïse Katumbi accusé d'avoir fait rentrer illégalement à Lubumbashi une centaine de mercenaires à l'époque où il était gouverneur au Katanga risque entre 5 et 20 ans de servitude pénale selon la loi congolaise. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, la machine à voter et le fichier électoral de Zeke à 2 mois et demi des élections du 23 décembre prochain ont nourri hier une nouvelle réunion entre la Commission électorale nationale indépendante et les candidats à la présidentielle sans le consensus avec l'opposition souhaité par les Nations Unies. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a rencontré pour la deuxième fois en une semaine les 21 candidats ou leurs représentants pour parler de la machine à voter et de la présence des électeurs sans empreinte digitale dans le fichier électoral, selon le communiqué quotidien de la CENI.
En Guinée, le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana va effectuer dans les prochains jours une tournée dans le pays pour convaincre les enseignants de renoncer à une nouvelle augmentation salariale, demande à l'origine d'une grève. Nani Talani.
Le Premier ministre se rendra dans les 7 capitales régionales pour convaincre les enseignants de renoncer à leur demande d'augmentation de salaire et leur offrir en contrepartie la construction de logements sociaux selon une source gouvernementale. Monsieur Fofana annoncera à cette occasion une hausse du budget du secteur de l'éducation pour 2019 consacrée uniquement à la construction de nouvelles infrastructures scolaires dans les zones reculées et au recrutement de nouveaux enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale, Maurice Sangaré, a exhorté mardi soir les enseignants et les élèves à reprendre le chemin de l'école. Une semaine après le lancement de la grève par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, la grande majorité des écoles sont paralysées à Conakry. Le syndicat accuse le gouvernement de n'avoir pas respecté l'accord qui avait mis fin en mars au précédent débrayage.
Au Nigeria, l'armée a annoncé hier qu'au moins 7 soldats ont été tués et 16 blessés dans l'attaque d'une base militaire par des djihadistes de Boko Haram près de la frontière avec le Niger. Mais des militaires et miliciens faisaient état d'un bilan plus lourd de 18 soldats tués dans ces affrontements lundi à Métélé, un village de l'état de Borno dans le nord-est.
En Sierra Leone, le gouvernement a annulé la construction par une entreprise chinoise d'un nouvel aéroport pour desservir Freetown, la capitale. Il estime le projet non rentable économiquement, l'actuel aéroport de Lungi étant, je cite, gravement sous-utilisé. Pendant la campagne électorale, le président Julius Madabio, qui a pris ses fonctions en avril, avait qualifié d'arnaque les projets d'infrastructure financés par la Chine, privilégiés par le gouvernement de son prédécesseur Ernest Bai Koroma.
L'Algérie rejette globalement et dans le détail les assertions d'un responsable des droits de l'homme de l'ONU qu'il avait accusé de maltraiter les migrants africains. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Le ministère algérien des Affaires étrangères, dans un communiqué, rejette ces accusations. Alger s'indigne aussi contre le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations, dont le bureau est à Niamey, et l'accuse d'alimenter depuis des mois une campagne de désinformation. Mardi, le rapporteur spécial de l'ONU, Philippe González Morales, a appelé le gouvernement algérien à cesser immédiatement les expulsions collectives de migrants africains vers le Niger. D'après lui, ces migrants sont raflés en pleine nuit, emmenés dans des postes de police, battus puis déportés par bus vers la frontière nigérienne. L'OIM a souvent critiqué le traitement de ces migrants africains et les opérations de leur rapatriement forcé. Selon l'organisation, l'Algérie a expulsé au cours des 4 dernières années 35 600 Nigériens, dont plus de 12 000 depuis le début de l'année. Alger et Niamey ont conclu un accord pour rapatrier les Nigériens en situation illégale, dont la majorité pratique la mendicité.
En Égypte, un fils de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi, arrêté mercredi matin pour diffusion de fausses informations, va être libéré sous caution sur décision du parquet, selon une source judiciaire. Abdallah Morsi, le plus jeune fils du président destitué et emprisonné depuis 2013, avait la semaine dernière, dans une interview à l'agence Associated Press, reproché aux autorités de ne lui permettre de rendre visite à son père que très rarement. Il leur reprochait aussi de ne pas fournir de soins médicaux suffisants à ce dernier. Les autorités, elles, ont soutenu qu'Abdallah Morsi était soupçonné d'appartenance à un groupe interdit et de diffusion de fausses informations.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Affaire Jamal Khashoggi, le Washington Post a dit hier que les services de renseignement américains avaient connaissance d'un projet saoudien impliquant le prince héritier Mohammed Ben Salman, consistant à attirer le journaliste saoudien dans un piège pour l'arrêter. Jamal Khashoggi, un journaliste critique du pouvoir saoudien et collaborateur du Washington Post, a disparu depuis plus d'une semaine après s'être rendu au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Des sources gouvernementales turques disent avoir des éléments accréditant la thèse d'une capture, voire d'un meurtre.
Et pour sa part, le président américain Donald Trump a affirmé que son gouvernement a demandé des explications au plus haut niveau à l'Arabie Saoudite sur le sort de Jamal Khashoggi. Abdourahman Dia.
La déclaration du locataire de la Maison Blanche intervient après la révélation d'éléments accréditant la thèse de la disparition forcée ou de l'assassinat du journaliste par des agents saoudiens. Depuis la Maison Blanche, Donald Trump a indiqué que Washington a parlé plus d'une fois avec le pouvoir saoudien. « Nous voulons savoir ce qu'il se passe là-bas », a-t-il ajouté. La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a précisé que le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, le conseiller spécial du président Trump, Jared Kushner, et le secrétaire d'État Mike Pompeo avaient chacun évoqué le cas avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Ils ont notamment demandé des détails sur la disparition et la transparence du gouvernement saoudien concernant l'enquête, a-t-elle ajouté. Jamal Khashoggi, un critique du pouvoir saoudien, n'a plus donné signe de vie depuis qu'il est entré dans le consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre. M. Trump a également dit être en contact avec la fiancée du journaliste qui avait mardi imploré son aide pour faire la lumière sur cette affaire, Riyad étant l'un des plus proches alliés des États-Unis.
Toujours ici aux États-Unis, avec des vents d'une violence inouïe provoquant d'importantes destructions, L'ouragan Michael, qui a frappé de plein fouet le nord-ouest de la Floride, faisant au moins une victime, poursuivait mercredi soir sa course dévastatrice en Géorgie voisine. Si l'ouragan a baissé en intensité, rétrogradé en catégorie 1 sur une échelle de 5 mercredi soir, il charriait toujours des vents très forts à 150 km/h en passant sur le sud-ouest de la Géorgie selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans. Michael se déplaçait rapidement à 28 km/h vers le nord-est. Les météorologues prévoient une arrivée dans le centre de la Géorgie demain matin, jeudi matin, donc ce matin même, avant qu'il ne s'éloigne en direction de l'Atlantique vendredi matin.
La francophonie réunie à partir de ce jeudi à Erevan doit nommer à sa tête la Rwandaise Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères, consacrant ainsi la victoire de l'Afrique, mais aussi celle du président français Emmanuel Macron, héros d'une vision plurilinguiste de la défense du français. Pour l'Arménie, un petit pays de 3 millions d'habitants, dont 6% de francophones, il s'agira du plus grand événement international jamais organisé sur son sol.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Au Cameroun, la Commercial Bank of Cameroun vient de mettre en service dans sa nouvelle agence de crédit le tout premier guichet automatique de banque ou GAB permettant d'effectuer des dépôts en espèces. Cette institution bancaire devient la première à déployer ce type de GAB dans le pays grâce à une application conçue par la start-up camerounaise Iwomi Technologies. C'est une approche innovante et sécurisée qui rend les services bancaires plus accessibles et plus abordables. Le Fonds néerlandais de financement du développement prête 40 millions de dollars à ING Bank, une institution financière kényane. Ce fonds servira à augmenter les prêts aux petites et moyennes entreprises. Avec l'entrée en vigueur de la loi sur la limitation des taux d'intérêt, le service des banques au Kenya s'est montré plus réticent à prêter aux petites entreprises. Pour terminer, l'Afrique subsaharienne a mobilisé un record de 30,8 milliards de dollars sur les marchés des obligations au cours du troisième trimestre 2018. Les gouvernements, premiers émetteurs, ont besoin de liquidités pour le financement des déficits budgétaires. Avec le durcissement des conditions d'emprunt sur le marché international des obligations, on devrait assister à une présence plus faible des émetteurs d'Afrique subsaharienne.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Odessa, bonjour à tous.
Les qualifications pour la CAN 2019.
Ah oui, l'Éthiopie qui fait match nul à domicile à Bayerdar contre le Kenya 0-0 dans le groupe F. Et dans le groupe K, la bonne opération des Chipolopolo de Zambie qui bat 2-1 la Guinée-Bissau pour revenir en tête du groupe. 4 points ex aequo avec leur adversaire du jour.
La double confrontation Sierra Leone-Ghana, elle, est annulée.
Ah oui, les deux matchs prévus ce jeudi et dimanche dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ont été annulés. C'est ce qu'annonce la Confédération africaine de football. En cause, la dispute entre Freetown et la FIFA qui a suspendu la fédération sierra-léonaise la semaine dernière pour ingérence gouvernementale. Pour l'heure, la CAF n'a pas précisé si ce forfait entraînait la disqualification complète des Lone Stars, ni si le Ghana allait récupérer 6 points sur tapis vert. On rappelle que la prochaine CAN est prévue au Cameroun du 15 juin au 13 juillet prochain. Et enfin, l'autre match du jour, lui, aura bien lieu entre le Congo et le Libéria.
La Libye n'a plus de sélectionneur.
Alors qu'ils sont opposés au Nigeria samedi et mardi dans le cadre de ces éliminatoires de la CAN 2019, les joueurs libyens viennent de perdre leur sélectionneur Adel Amrouche. En plein stage de préparation en Tunisie, le technicien algérien a claqué la porte et démissionné. La raison, plusieurs mois de salaire non versé. Son intérim devrait être assuré par son adjoint Omar Al-Marmi lors de ces deux matchs.
Demain, la Ligue des Nations reprend ses droits en Europe.
La sélection du Portugal a surtout été animée ces derniers temps par les déboires extrasportifs de Cristiano Ronaldo. Alors ce match contre la Pologne apparaît un peu comme une bouffée d'air. On se souvient que lors de la première journée de la Ligue des Nations, Cristiano Ronaldo était absent lors de la victoire des Portugais contre l'Italie, 1-0. La Russie aussi a des soucis extrasportifs, cette fois-ci avec Alexander Kokorin et Pavel Mamaev, en tout cas la Sbornaïa qui affronte la Suède. Israël reçoit l'Écosse, la Serbie en déplacement chez le Monténégro, la Roumanie ira en Lituanie, les îles Féroé reçoivent l'Azerbaïdjan et enfin le Kosovo contre Malte.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au moins 180 000 ressortissants de la République démocratique du Congo en situation irrégulière en Angola sont rentrés dans leur pays depuis le début d'une opération d'expulsion lancée par Luanda contre les clandestins. Plusieurs d'entre eux ont été tués en marge de cette opération. Sur la question, Eddy Isango, adjoint à Tshikapa, dans la province du Kasaï, le coordonnateur de la Ligue nationale paysanne des droits de l'homme, Albert Fouamba.
Je suis juste à l'entrée de la ville de Tshikapa. Je vois les chasseurs de l'Angola qui viennent. Ils font presque 150 km à pied, des femmes, des enfants, des hommes, dans les conditions tout à fait des personnes fatiguées, humiliées.
Qu'est-ce qu'ils disent des opérations qui sont menées là-bas pour les évacuer, pour les chasser?
À la sortie, là, ils avaient des tracasseries policières. Des fois, on pouvait fouiller dans leurs biens, mais vu leur nombre, cette tracasserie-là a diminué puisqu'il n'y a pas moyen de les contrôler. Malgré ça, les services de l'État essaient un peu de voir par quels moyens ils peuvent être dirigés pour que chacun récupère sa famille.
Mais on parle des morts et même parmi eux des Congolais.
Ils nous parlent des morts de la ville de Lukapa, de certaines personnes qui ont été tuées, forcées pour sortir et tuées. Et juste là, nous n'avons pas tellement le bilan.
Les commissaires de la police angolais parlent d'au moins 180 000 Congolais qui auraient été chassés. Est-ce qu'en arrivant au Congo, ces personnes sont-elles prises en charge par les autorités?
Là, il n'y a aucune autorité en place ou une organisation non gouvernementale qui a pris en charge ceux qui sont en train d'entrer. Des fois, certaines viennent sans quelque chose entre leurs mains. Vous savez, il y a un délai qui les a été donné de sortir librement avec leurs biens. Et vu que ce délai est en train d'expirer, alors certaines sont chassées pour chasser, laissant leurs biens de l'autre côté de l'Angola.
Certains d'entre eux viennent d'autres coins de la RDC, mais quand ils sont rapatriés par ou chassés par les Kassai, comment vont-ils rejoindre leur famille?
Ça semble être un peu une équation à ce niveau-là, puisque vous savez, ici au Congo, les moyens de transport sont compliqués, il n'y a pas de route pour la circulation facile, alors c'est tout à fait difficile. Si quelqu'un de Kafemba, du côté de Bandundu, peut se retrouver sortir du Kasaï, celui du Kasaï se retrouve sortir du côté de Bandundu.
Il y a chaque année des rencontres comme ça après qu'on ait expulsé les Congolais, mais la situation ne change pas.
Ça vient chaque année, chaque moment. À l'heure qu'il est, il semble que tous les expatriés qui étaient en Angola, que ce soit les Blancs, les Noirs, les Sénégalais, les Ivoiriens, sont chassés de cette façon-là, tous ensemble.
C'était Albert Fouamba, coordonnateur de la Ligue nationale paysanne des droits de l'homme à Tshikapa, en RDC.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
En Côte d'Ivoire, la campagne pour les élections locales bat son plein à Abidjan. Dans l'un des grands quartiers de la capitale économique, Abobo, qui a plus de 2 millions d'habitants, deux candidats en particulier retiennent l'attention dans ces municipales. Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense et pro-Alassane Ouattara, et Kone Tefour, instituteur soutenu par Guillaume Soro. Compte rendu de Blanche Sanou.
Abobo-Laguerre, ainsi est surnommé le grand quartier populaire d'Abidjan en raison de son rôle pendant la crise de 2010-2011. Les écoles sont surpeuplées, l'insécurité y est légendaire avec le phénomène des microbes. La nuit, même les bandits ont peur de rentrer chez eux, selon une blague populaire. Derrière les grands axes, des milliers de personnes vivent sans eau ni électricité dans un océan de bidonvilles parcourus par des routes boueuses. Parmi les nombreux problèmes figure le chômage des jeunes, comme l'indique Maïmouna Samake, résidente d'Abobo.
Abobo a ses réalités, a ses tristes réalités. Moi, aujourd'hui, j'ai un diplôme d'aide soignante, mais par la force des choses, je ne travaille pas, je ne fais rien. Je suis mère de trois enfants, je suis à la maison, je fais comment pour aider mon mari? c'est difficile. Donc vraiment, nous on veut des gens qui vont venir changer notre vie.
Paradoxalement, Abobo est le théâtre d'une des plus grandes batailles pour les municipales du 13 octobre. Considéré comme le fief du pouvoir, c'est cette commune que Ahmed Bakayoko, dit Ambak, ministre de la Défense et l'homme du président Alassane Dramane Ouattara, a choisi pour battre campagne. Avec des moyens gigantesques pour ses meetings et ses énormes panneaux publicitaires, le ministre joue de sa proximité avec le président devant plusieurs milliers de militants. Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense et candidat à la mairie d'Abobo.
Je suis un enfant d'Abobo parce que j'ai la même histoire que les enfants d'Abobo. Je connais leur état d'esprit et je connais les défis qui leur sont propres. Donc avec eux, j'ai un combat à mener pour que nous ayons le même destin. J'ai des projets pour Abobo et c'est ça le plus important.
Koné Tefou tient un autre discours devant une centaine de militants. À ses côtés, Simon Soro, le frère de Guillaume Soro. Sa campagne est moins flamboyante, mais il rappelle ses bienfaits pour la commune et a su être la solution au problème du quartier. Koné Tefou, candidat à la mairie d'Abobo.
Ma candidature est la candidature des populations d'Abobo qui aspirent à un changement, qui aspirent à la transformation sociale de leur vie. Elles ont pratiqué toutes sortes d'autorités, ministres, DG, tous ceux qui avaient l'argent parce que les populations n'avaient pas encore une conscience citoyenne. Elles pensaient que ce sont les riches qui pourraient les sortir de la précarité. Mais elles ont vite déchanté. Elles ont compris que les riches ne viendront que dans la période électorale pour leur distribuer des miettes qui ne peuvent pas transformer leur vie.
Au total, 6 candidats sont en lice, mais c'est le duel au sein de la majorité présidentielle qui attire les regards. Le contrôle de la commune la plus peuplée du pays est considéré comme stratégique pour la présidentielle de 2020.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
La saison de la loterie pour la carte verte américaine n'est pas une mince affaire au Sénégal. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 3 octobre pour ce programme qui permet d'émigrer, d'étudier et de travailler aux États-Unis. Et à Dakar, on se bouscule dans certains milieux pour tenter sa chance. Reportage de John Lindon, envoyé spécial de VOA Afrique au Sénégal.
Gagner à la loterie américaine et émigrer aux États-Unis, un rêve pour beaucoup, une chance à saisir ici à la place de l'obélisque à Dakar. Aminata Maouloudou, mère de famille.
Je veux tenter ma chance parce que les États-Unis, c'est un pays que j'ai toujours aimé et que c'est mon pays de rêve aussi parce que j'avais eu à déposer le visa deux fois. J'ai pas eu le visa. Donc vraiment, j'aimerais bien gagner comme tout le monde.
Chaque année, la loterie pour la carte verte donne l'occasion à 50 000 ressortissants du monde entier de s'installer aux États-Unis. Quelques élus républicains veulent la supprimer, mais c'est une opportunité, surtout pour les jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études aux États-Unis. Souleymane Tidjani en fait partie.
On m'a dit que ça permettait d'avoir une chance pour les Africains de pouvoir voyager vers les États-Unis d'Amérique pour pouvoir aller continuer à étudier ou aller travailler et tout. Donc si je suis venu essayer, c'est pour avoir aussi cette chance-là. Je ne sais pas si la chance me suit. J'aimerais avoir aussi la chance de pouvoir aller aux États-Unis pour pouvoir continuer mes études et pouvoir me développer mentalement et spirituellement.
Mais sur le plan pratique, participer à la loterie n'est pas chose facile lorsqu'on ne maîtrise pas l'outil informatique. Normalement, la participation est gratuite, mais l'aide est souvent payante.
Les gens viennent jouer ici parce qu'ils ont peut-être des problèmes pour accéder dans le site. Parce que c'est très compliqué, surtout au niveau de la photo. Il y a des critères à remplir. Je pense que c'est pour cela qu'ils préfèrent venir ici, payer 3000 francs et jouer le site.
Et tout est mis en œuvre pour inciter les gens à participer.
Venez tenter votre chance pour les green cards et allez aux États-Unis en toute légalité.
Eh bien, la fièvre de la loterie américaine se poursuit donc ici à Dakar. Beaucoup auront la chance peut-être de gagner une green card et de pouvoir résider aux États-Unis. Ils ont pour cela jusqu'au 6 novembre de cette année. John Lindo, Dakar, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Tunisie, le Parlement a adopté une loi criminalisant les propos racistes, l'incitation à la haine et les discriminations. Le pays comprend une minorité noire, entre 12 et 15% de la population, et reçoit beaucoup d'étudiants venus d'Afrique subsaharienne. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint à Tunis le journaliste Mourad Selami.
Dans cette loi, l'objectif, dans la mesure que dans la société, il y a de la discrimination. C'est vrai que ce n'est pas une discrimination très apparente, mais lorsqu'on constate, par exemple, que l'équipe gouvernementale ne comprend pas des personnes de peau noire, par exemple, lorsqu'on constate que les femmes dans le gouvernement ne constituent que 3 ou 4 sur 40, on comprend parfaitement que la loi est censée faire la locomotive dans une société pour pousser à l'avant vers la fin de la discrimination.
Et justement, c'est une loi qui était attendue de longue date. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a favorisé son adoption en 2018?
Je ne pense pas qu'il y a vraiment une conjoncture spéciale qui a poussé à ce que cette loi soit votée aujourd'hui. Non, c'est plutôt le travail en lui-même de l'Assemblée des représentants du peuple est très lent durant cette législature. Il y a presque 50 ou 60 projets de loi qui attendent encore de dépasser devant l'Assemblée.
En Tunisie, les minorités, notamment les Noirs, étaient victimes de discrimination. Quelle est l'ampleur de ce phénomène?
Pour être honnête, oui, elles sont victimes de discrimination si l'on voit leur ascension sociale, leur ascension professionnelle. Par exemple, en Tunisie, Le mariage mixte blanc-noir est un phénomène vraiment rare. C'est-à-dire que sur l'ensemble des couples tunisiens, il n'y a même pas 2% de couples mixtes qui n'est pas en Tunisie. Le gouverneur sur les 26 gouverneurs tunisiens de gouverneurs noirs, pourtant la population noire en Tunisie et de l'ordre de 10 ou 11%.
Beaucoup d'étudiants venant d'Afrique subsaharienne se plaignent sur les réseaux sociaux de la manière dont ils sont traités en Tunisie. Est-ce que c'est une réalité et qu'est-ce que le gouvernement tunisien fait?
Cela ne vient pas du fait qu'ils soient noirs. Cela vient du fait qu'ils soient étrangers. Mais le phénomène est circonscrit. Le phénomène n'est pas très, très large.
C'était le journaliste tunisien Mourad Selami.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur l'élection présidentielle de dimanche dernier au Cameroun. Le pays est dans l'attente des résultats, mais l'un des candidats de l'opposition, Maurice Kamto, a d'ores et déjà revendiqué la victoire face au président sortant Paul Biya. Cette proclamation jugée prématurée pourrait-elle donner lieu à une crise post-électorale dans ce pays déjà confronté aux troubles dans les régions anglophones? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Oti korade kuma kanju oti korade kuma ju.
d'aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Sims Lumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.